Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, on vous retrouve pour la saison 5 de Money Time, épisode 4 avec nos chroniqueurs, hein, une fois de plus, fidèles au rendez-vous autour de la table. Et on commence à côté de moi, par la gauche, avec toi mon Charles, comment tu vas bien ?
Salut Matt, et bah ça va très bien, je suis très content de vous retrouver.
Ouais, et tu vas faire des heures sup toi aujourd'hui, puisqu'on te retrouvera dans une heure dans Passage en Force.
Exactement.
Et à côté de toi, c'est le retour de mon Fab. Ouais. Comment que ça va bien, Fabrice ?
Ça va très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et je suis très content d'être là ce soir.
Et en face de toi, c'est Jean-Marc. Salut Jean-Marc.
Salut Matt, salut à tous. Bonsoir aux auditeurs et je profite pour saluer trois équipes qui ne jouent pas en élite mais qui sont leaders de leur championnat. J'ai nommé l'Hermine de Nantes en basket, le Stade Nantais en rugby et également le FCN féminin, leader de sa poule en deuxième division.
C'est super, on les encourage pour leurs bons résultats. J'oublie pas en cabine notre réalisatrice Maëlan. Salut Maëlan.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors au sommaire, on commence par la traditionnelle page football. On reviendra sur les affiches du week-end. En hand, on débrief la semaine du H. Une page Sport Méca avec MotoGP et Formule 1. Une surprise dans cette rubrique avec, ben vous le savez, le titre, le premier titre pour un Français dans la catégorie Rennes. Dans le reste de l'actu, on parle de ski alpin avec la reprise sur le glacier de Solden des épreuves de Coupe du Monde. C'était du géant et puis bien sûr les résultats de nos clubs nantais dans la foulée. Voilà Maëlan, on est parti, c'est le football, c'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et une fois n'est pas coutume, on va commencer la page football en parlant de nos Canaries du FC Nantes hein, pour le championnat de première division. Ce week-end, ce dimanche à 15h, Nantes recevait Clermont. Et puis bonne nouvelle, trois points dans la besace.
C'était samedi à 17h, puisque je l'ai
samedi,
regardé.
Samedi 17h.
Oui, Nantes qui, après avoir fait un bon match nul le dimanche d'avant à Bordeaux, recevait une équipe, une surprenante équipe de Clermont,
surprenante,
qui joue très très bien et qui a embêté plus d'un gros. Et du coup, un bon début de match. Hein, c'était un match assez animé, mais aussi très physique. Et du coup, Johan Gatien, le fils de l'entraîneur, a voulu réagir à un petit accrochage que lui faisait Giroto. Il lui a mis direct une baffe. Du coup, carton rouge à la 30e.
C'est pour ça le carton ?
Oui. Dans la foulée...
J'ai plus vu ça comme ça avant.
Corchia, dans la foulée, 6 minutes après, Corchia centre sur un coup franc, sur la tête de toujours ce même Giroto.
Il fait un très bon début de saison, qui marque son troisième but. Lui qui, l'année dernière, n'avait marqué qu'un but, donc il est en forme dans les airs cette année. Hein.
Très beau but de la tête. Derrière, 2 minutes après, Corchia, l'auteur du coup franc, tacle en retard, mais largement en retard. Au départ, carton jaune, l'arbitre regarde la vidéo, carton rouge, totalement logique. Du coup, ça a commencé à s'échauffer un petit peu entre Pascal Gatien et Antoine Comboiré sur les bancs. Antoine Comboiré qui prendra un carton jaune d'ailleurs. Et la mi-temps arrive à point nommé pour éviter que ça parte complètement
en vrille.
Là, début de deuxième mi-temps, 49e, Mehdi Bayo, l'homme en forme de Clermont, dont je vous parlerai juste
Mohamed
après.
Mohamed Bayo.
Mohamed Bayo, pardon. Mehdi, ça doit être son frère. superbe but, tout seul, hein. Il va se le chercher tout seul, et puis il met une petite frappe sous la barre. Du coup, un partout.
Très bon début de saison hein, de Mohamed Bayo, hein, qui est déjà à 6 buts marqués en 10 matchs, 2 passes décisives, donc il fait lui qui vient de la Ligue 2. Hein, qui
connaît meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière.
Exactement, il débute un petit peu en Ligue 1 et il réalise un très bon début de saison, surtout avec Clermont.
Et pour l'instant, deuxième meilleur buteur de Ligue 1.
Exactement.
Avec Bla et tout, 6 buts.
Du coup, on va finir vite fait avec Mohamed Bayo, puisque il est rentré chez lui, apparemment il avait un mariage dimanche.
Ouais, j'ai appris ça, ouais.
Accident, il a fui, donc du coup là il était en garde à vue.
Avec un léger...
0,88 après.
C'est léger.
Ce qui lui a été reproché, c'est surtout la fuite. Et comme il avait les clés de la voiture dans sa poche. J'espère pour lui qu'il ne va pas être...
Je ne pensais pas que vous en parleriez ce soir, mais parce que... Ouais,
mais ça fait partie de l'actu. Parce que le joueur qui nous a mis un but, ça se trouve, il ne va peut-être pas être là. Enfin, je ne pense pas. Normalement, tu ne prends pas de la prison ferme pour un cas comme ça, mais bon.
Ouais, je pense pas quand même. Ouais,
je lui souhaite pas. Bon, non. Bref, en tout cas, du coup, ça a quand même eu le mérite de réveiller Nantes, ce but de Bayo, qui aura plusieurs occasions et finalement sur une percée côté droit de.
Randal Kolo Muani, encore lui.
Voilà, RKM, qui remet en retrait superbement pour Blaise, qui place le ballon hors de portée des Clermontois. Et résultat, 2-1 pour Nantes. Nantes qui aura plusieurs occasions de creuser l'écart, mais qui ne le fera pas.
Jean-Marc, est-ce qu'il y a but?
Est-ce qu'il y a bu ?
Sur une frappe.
Ah, j'ai vu une frappe qui a poussé sur la ligne, tu veux dire ?
Voilà.
Bon, la Golden Technologie.
Les trois gardes de ballon sont passés. Hein.
Non, mais alors justement.
Ils ont appelé la VAR, mais 10 minutes après, ils ont montré le ballon. Et le ballon était bien rentré.
Oui, mais qu'est-ce que te montrait l'image de la Golden Technologie ?
Le ballon aux trois quarts.
Parce que en fait, c'est la totalité du ballon qui doit avoir franchi la ligne. Alors. Évidemment, tu regardes par en dessous, tu vas dire, là, et tout a passé la ligne. Et puis, si tu regardes une caméra du dessus, alors ça reste relatif, mais normalement, il faut vraiment que tout le ballon ait franchi la ligne.
Mmh. Ouais.
Et c'est pour ça que, en général, si ça s'allume en rouge, après, on va pas avoir de doute là-dessus, parce que tous les repères sont faits.
Oui, voilà.
C'est peut-être la seule technologie qui est infaillible dans le système de la VAR et tout le reste.
Bon, toujours est-il qu'il fallait gagner ce match face à un promu à notre portée. La chose a été bien faite. Nantes est 7e.
À notre portée, Clermont-Ferrand avait battu Lille.
Mais ils marquent le pas depuis 5-6 journées. Ils avaient gagné leurs 3 premiers matchs, mais après, bon.
Il faut rappeler que Lille est quand même derrière nous pour l'instant. Donc Nantes qui réalise finalement un très bon début de saison.
Lille, Lyon.
Exactement.
Il y en a d'autres.
Et au classement, on rattrape Angers. En fait, on est 5e ex aequo.
On est 5e et on est seulement qu'à 2 points de Nice, qui a un match en moins à rejouer face à Marseille.
Qui joueront mardi, je crois.
Ils joueront mardi à 3. Et délocalisé en raison des incidents. Mais c'est
à 3, mais à Marseille.
Ouais, c'est ça. Ils viseront les 3 points. Et Nantes qui finalement réalise un très bon début de saison par rapport à l'année dernière où finalement on a eu une saison assez cataclysmique avec finalement les barrages de Ligue 1 et Ligue 2 face à Toulouse. Et là finalement Nantes réalise un très bon début de saison, le groupe vit bien, ça a l'air de bien marcher, Blas est très en forme et joue de mieux en mieux, Randal Kolo Muani confirme sa saison passée. Donc Antoine Comboiry fait du très bon travail avec Nantes, avec un groupe qui n'a pas trop changé.
Il a passé un très bon week-end à Quiberon le week-end d'avant.
C'est ça. C'est
lui qui fait les photos bombes là derrière.
D'accord.
Avec mon ami Philippe Janol, il a passé un bon week-end chez Philippe.
C'est ce que j'ai vu.
Il a fait une performance après.
Allez, on enchaîne avec...
Juste un truc que je voulais dire, mais je ne sais plus, c'est surtout le joueur qui fait changer un peu tout ça, c'est Chirivella.
Oui, Pedro Chirivella qui ramène énormément d'aisance technique et de dynamisme au milieu de terrain. On sent que vraiment, il a imposé sa patte cette année au milieu de terrain. Comboiré, vraiment, l'année dernière, il arrivait, il était encore un peu juste, il jouait pas beaucoup à Liverpool. Donc on sent vraiment que Pedro Chirivella s'affirme et devient un titulaire indiscutable au milieu de terrain.
Je suis un peu d'accord avec Jean-Marc, dans le sens où les deux joueurs cette année, c'est Bla et Chirivella, évidemment Rondo Kolomeli, évidemment.
Randal Kolo Muani.
On a trois joueurs, donc deux qui devaient partir.
Bah exactement.
Et qui sont restés.
Et qui peut-être partiront en janvier, on ne sait pas trop.
Là, ça ne va pas être la même.
Ouais. On espère une bonne place en fin de saison. La Ligue Europa Conférence, par exemple.
On n'y croit pas. Non mais il y a du monde, on est au coude à coude avec beaucoup d'équipes, on est 7e, mais enfin ça joue à 2 points, on est 11e. Donc bon, ne nous emballons pas, on réalise déjà un bon début de saison, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Alors déjà, si on arrive à finir dans le ventre mou, c'est déjà bien.
Oh, il faut être optimiste. Qu'on est presque à la moitié des points pour se sauver.
Allez, oui, on enchaîne le match qui nous intéressait hier soir. C'était le Classico Marseille-PSG au Vélodrome. Exactement. Avec Paris et ses stars et son Messi qui devait...
Triste, devait
corriger l'OM, hein, en tous les cas sur le papier. Sur le terrain, il n'en a rien été. Belle prestation des Olympiens qui se battent, hein, pour finalement garder le point du nul. Hein. Lavar, grand acteur de la soirée, hein, bien sûr.
Oui, mais les deux buts refusés, logique.
Oui, mais on aurait pu les accorder tous les deux et ça aurait fait
oui,
un...
Oui, oui, bien sûr.
T'as l'esprit du jeu qui
si
veut
tu enlèves Lavar, il y a un partout.
Ouais, moi je l'enlève, Lavar. Hein,
non, mais c'est ça. Paris est venu en bande organisée, ils sont repartis la queue entre les jambes.
C'est ça, mais alors, le truc, c'est que... C'est pas mal. Le truc, c'est que... bon, Marseille aurait peut-être pu viser mieux quand Hakimi a pris son carton rouge en tant que dernier défenseur.
Sévère.
Il le prend en tant que dernier défenseur.
Il le prend parce que Lavar aussi.
Parce que ça a été vérifié à Lavar. Sinon, il le prend même pas, parce que l'arbitre, au départ, estime que c'est le Turc Gunder...
Senzingunder.
Qui plonge.
Ouais. C'est ça. Donc,
à noter, moi, le truc que j'ai noté, c'est la belle tête de Rongier en deuxième mi-temps qui passera du poteau.
C'est ça. Bah,
ancien antenne.
Rongier qui sortira remplacé à l'heure de jeu.
Ouais, c'est parce que Rongier qui fait un bon début de championnat. Il est présent au milieu de terrain sous Sampaoli. Bon, Rongier qui, malheureusement, mauvaise nouvelle pour lui, il s'était fait cambrioler pendant le match. Bon. Ça c'est une triste nouvelle pour lui, mais c'est vrai que c'est un classico. On attendait beaucoup, hein, de ce match. On attendait surtout des buts. Il y a eu l'ambiance, il y a eu tout ça, hein, évidemment. Mais
un petit peu trop d'ambiance d'ailleurs, puisque Marseille risque de perdre un point.
Ce serait pas illogique. Ils avaient un point avec Sursis depuis les incidents face à Nice. Ouais. Et résultat, je pense que vu ce qui s'est passé, le sursis va être levé et ils vont prendre un point.
Si je m'abuse, Hakimi, c'est son deuxième rouge dans la semaine. Il a pris un rouge en
Leipzig.
Non.
Parce qu'apparemment, c'était le premier rouge de sa carrière. Donc,
il a pris un jaune et on l'a fait sortir.
Paris, petite prestation. Dans la continuité de son match au Parc face à Leipzig, l'équipe a été vraiment dominée. Donc,
j'ai même presque envie de dire dans la continuité de leur saison, parce que finalement, ils font en début de saison très. Alors, oui, ils prennent les points en Ligue 1. Ils ont que des victoires, hormis un match nul face à Marseille. Et une défaite. Mais sinon, franchement, dans le jeu, concrètement, ils gagnent à chaque fois sur des coups de Lavar, sur des coups un petit peu bizarres des arbitrages face à Angers, face à Lyon.
La Rennes.
Non, mais c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que en Ligue 1, ça va passer. Ils ont Messi, ils ont Mbappé, ils ont Neymar, c'est très bien. Et je pense que l'année dernière, ça ne reproduira pas. Mais ils jouent pas mieux en Ligue des Champions, ils passeront les poules.
Ah, ils passeront les poules, mais
dès qu'ils vont se confronter à une vraie équipe, une équipe collectivement bien construite, qui va avoir défensivement des très bons joueurs et un jeu et tout, je pense pas que ça passera parce que ils sont vraiment actuellement très dépendants. Ils ont pas encore, le Pochettino n'a pas encore trouvé la solution.
Mais d'ici là, on sera au printemps, Charles, et au printemps, Pochettino il sera peut-être plus là. Hein.
C'est pas faux.
Et nos Canaries iront se frotter à eux le 22, je crois, 22 novembre, je crois.
Ouais,
ce week-end. 21 novembre.
Ouais, exactement.
Donc, on ira au parc jouer enfin.
Bon, on va pas développer toutes les affiches de Ligue 1, on va pas avoir le temps. Il y avait beaucoup de gros matchs quand même hier soir.
Juste deux trois la Ligue 1, la défaite de Lyon face à Nice, ils menaient 2-0 à la 80e, ils se sont fait renverser 3-2 avec notamment un carton rouge pour Kadewere, mais enfin c'est logique, un tacle assassin, mais jamais vu ça. Il y a eu la victoire aussi de Monaco face à Montpellier, une bonne victoire pour Monaco qui revient bien au championnat. et Saint-Etienne qui continue un petit peu plus dans ce, de s'embourber avec un match nul.
Et qui aurait dû perdre s'il n'y avait pas eu un petit arrangement de l'arbitre pour éviter qu'Angers l'emporte à Saint-Etienne.
Exactement.
Et Bordeaux dommage aussi. Pour Angers. Bordeaux qui sont les pinceaux à Lorient hein, partout et Bordeaux est mal aussi. Hein.
Ouais. Bon, Bordeaux, ça fait un Metz, moment Brest qu'on a compris aussi, que
ouais. C'est et plus d'ailleurs, Bordeaux.
C'est vrai qu'Angers quand même se fait souvent flouer hein, parce qu'entre Paris et la Saint-Etienne...
Ben, ils n'ont pas, si tu veux, ils sont trop sympas.
Exactement.
Et sympas, d'ailleurs, hier soir à Lorient, il y a eu une bagarre entre supporters.
Une bataille de... Ils ont sorti les merlus.
Mais entre supporters, vous n'allez pas me croire.
Une boîte de sardines.
Bordelais et Nantais.
Oh là là.
Les supporters nantais sont allés.
C'est Ludo, ça, c'est Ludo. Qu'est-ce qu'il a encore fait?
C'est ridicule, mais bon.
Allez, on reste sur le terrain. Je voulais vous parler des grosses affiches du week-end avec notamment bah, le fameux United-Liverpool.
Je te rends juste la parole. C'était juste pour dire que Nantes, du coup, jouera à Montpellier pour Halloween à 15h dimanche. Voilà, je
allez,
te rends la main.
Nombreux. Et donc, le grand match en Angleterre, United-Liverpool, et le carton des Reds hein,
exactement,
face aux Red Devils, 5-0, l'humiliation pour Solskjaer.
C'est ça, c'était censé être le gros match du week-end, celui qu'on attendait plus, le derby qui c'est censé être entre un choc, donc réellement, on ne s'attendait pas à un match de coupe de 3ème division contre Liverpool. Non mais plus sérieusement, le match qu'a délivré United est un peu indécent d'une équipe de leur standing avec le recrutement qu'ils ont fait, les joueurs qu'ils ont, être aussi aux abois défensivement, être si mal préparé, avoir Ole Gunnar Solskjaer, au bout d'un moment, il va peut-être le remettre en question. Il s'est sauvé plusieurs
fois.
Je
pense qu'il va être remis en question, mais après, au-delà de ça, je pense qu'il a été trahi par ses joueurs.
Mais c'est,
pour moi, il a été trahi, c'est pas la première fois que ça arrive. Sur le coup, je vais enlever Ronaldo qui a un coup de sang, il a mis un coup de pied dans le ballon, un mec était par terre. Bon,
Curtis Jones.
Avec Curtis Jones.
À la place de James Milner, sans
blessure. Bon, il l'a pas blessé, ça va, il n'y a pas mort d'homme.
Je pense qu'il prend pas rouge parce qu'il tape dans le ballon, je pense.
Oui, et non, ça, mais voilà. Pour moi, à la limite, ça, je le mets de côté, c'est un passage de nerf. Non, le scandale, moi, c'est Pogba qui joue un quart d'heure, qui fait un tac d'assassin et qui finit dehors. On ne peut pas trahir son entraîneur comme l'a fait Pogba.
Il y avait déjà 5-0. Non, le mal était fait.
Mais je pense c'est pas la première fois que Pogba fait ça entraîneur. Et là-dessus, je trouve pas ça normal.
Mais on le connaît, Pogba. Il est impulsif. On l'a vu en équipe de France avec le cas face à Pavard. Mais il n'y a pas de... Moi, ça ne m'étonne pas que Pogba. On le connaît, le joueur. Alors oui, t'as pas à faire ça. Oui,
ça me gêne ça. De le voir faire ça parce que c'est censé être un grand joueur. Mais, un grand joueur, ça fait pas ça.
Il perd 4-0 à la mi-temps. Tu rentres, forcément, t'es frustré, t'as envie de machin, et tu mets trop d'intensité, tu veux récupérer le ballon, t'es au bord de la surface adverse, résultat.
Pour moi,
voilà.
tu fais défaut à ton entraîneur.
Charles, il se passe quoi?
Ah oui, mais j'ai pas dit le contraire.
Il se passe quoi à la mi-temps? 4-0. Qui parle dans le vestiaire? C'est Drogba ou c'est Solskjaer?
C'est
l'entraîneur ou non.
Pogba peut-être plus
laisse
que
Drogba.
Laisse Drogba. Il a réussi à revenir au Vélodrome.
Est-ce que c'est
là-bas.
Pogba qui a parlé à la mi-temps?
Peut-être.
Et voilà, c'est lui. Il fait en équipe de France.
Qu'est-ce qu'a pu dire Ronaldo?
C'est surtout Ronaldo qui a dû parler parce que je vois pas. Enfin, alors oui, Pogba peut-être dû parler et tout, mais c'est surtout Ronaldo qui. Qui a l'aura et tout. Solskjaer, quand tu vois sa tête, tu sais que bah, la mi-temps, quand il perd 4-0.
Ferguson, la tête. Hein.
Ah bah Ferguson,
il a vu qu'il pouvait plus rien pour aider Solskjaer. Mais je pense qu'il était. Alors peut-être que Solskjaer n'est pas l'homme qui convient à cette équipe, même s'il a quand même fait.
Il les a remis sur le bon rail.
160 et quelques matchs.
Oui, quand même.
Il se fait un peu éliminer bizarrement en Ligue des Champions. Alors oui, ils font la finale de Ligue Europa, mais ils la perdent contre le Villarreal.
Bon, après, ils arrivent de loin. Hein. C'est plus le grand United que ça a été.
Non, mais c'est plus le grand United. Mais quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, on parle de Rashford, on parle de Ronaldo, de Pogba, de Sancho. De Bruno Fernandes. Enfin, on parle pas de joueurs qui jouent à Dijon quand même. Hein. C'est faut des joueurs qui sont souvent listés parmi les meilleurs du monde, par les meilleurs milieux, les meilleurs attaquants, qui sont censés faire, qu'on fait en sélection des finales d'Europa, qu'on a gagné la Ligue des Champions, qu'on a un palmarès. Et là, quand tu vois ce qu'en fait Solskjaer, et à chaque fois, je pense qu'il est un petit peu sauvé à chaque fois parce que c'est des très bons joueurs et qu'ils arrivent à revenir dans le match contre, comme face à Villarreal et face au dernier match de Ligue des Champions. face à l'Atalanta Bergame, où ils arrivent à faire chaque fois des petites remontadas. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir vite leur mettre en question le Solskjaer.
Ça n'a pas été le cas, il y avait trop d'écart à monter, même si Ronaldo nous met un bijou d'enroulé.
Oui,
il nous
fait refuser.
Mais qui a été refusé.
Refusé, dommage.
Pour la VAR, pour une bricole.
Bon.
Il y a hors-jeu.
Passer une. Oui,
ah oui, mais alors de. En fait, tu sais, c'est le bras qui est hors-jeu par rapport au.
C'est le corps qui est un petit peu penché vers l'avant.
Certains arbitres l'accordent.
Certaines femmes diraient que c'est une partie de son corps proéminente, mais bon.
C'est l'esprit du jeu voudrait qu'on l'accorde, mais malheureusement, bon, la règle, c'est la règle. Mais moi, passons United.
Passons ça.
Surtout le match de Liverpool, quand même. Et d'un joueur, Mohamed Salah.
Salah, bien sûr. 3 buts.
Trois buts, hat-trick, c'est le premier joueur depuis Berbatov et Dirk Kuyt dans un derby entre United et Liverpool depuis 2004, je crois bien, si je m'en souviens bien de tête. C'est vraiment Mohamed Salah et sur une autre planète actuellement. Il réalise un début de saison incroyable avec Liverpool. Ils sont deuxième au championnat. Faire ce qu'il fait et tout, il d'éliminer si facilement les défenseurs qu'on a vu comme face à City et encore là face à United, franchement collectivement Liverpool là, ça a très bien répondu.
Bon Charles, on va fâcher Jean-Marc parce que je sais que c'est un sujet qu'il ne supporte pas, c'est le Ballon d'Or.
Ouais.
Est-ce que Salah est potentiellement Ballon d'Or?
Moi je vais te dire un truc, à trois jours, je sais plus, là, c'est cette semaine que tout s'arrête.
C'est c'était dimanche 20h, ça s'est fini.
Voilà, c'est ça. Du coup il a balancé, hop, il a pris les dés. Il a balancé, il a tenté le double 6 pour. Il a tout tenté, quoi.
Il a tout mis et tout, mais sauf que le désavantage qu'il avait, c'est qu'entre guillemets, déjà, il est pour l'Égypte, donc déjà, c'est un rayonnement moins important, les compétitions européennes, les compétitions africaines. Il a mis un trick là, un trick, c'est très bien, mais les votes, 75% des joueurs, des votants, entre guillemets, on avait déjà voté avant le week-end.
Ouais.
Ça joue.
Sur
2-3 hésitants.
Il aura peut-être gagné une place.
Il aura peut-être. Voilà, c'est ça.
Pas de ballon d'or pour ça là. Pas cette année. On continue sur les grosses affiches du week-end. Le Classico en Espagne.
Exactement.
Barça-Real avec un Barça bien timide et timoré.
Où es-tu le Barça?
Pour une défaite 2-1 face à son grand rival, le Real. Ouais.
Ouais. Non, mais c'est vas-y. Bah c'est un Barça entre guillemets, on s'y attendait. Hein. Ça fait 4 ans que le Real les bat au Camp Nou à chaque Classico. Faut dire le Barça qui a perdu toute son identité entre guillemets, qui a perdu tous ses meilleurs joueurs. Est-ce que c'est pas étonnant le Barça qui réalise pas un début de saison incroyable?
Coman est toujours là,
mais on sent que vraiment que le Classico a quand même perdu de sa saveur en termes footballistiquement, pas en termes de prestige de nom, mais en termes de footballistiquement parlant et de joueurs sur le terrain, on sent que c'est plus le même Classico
qu'il
y a 5-6 ans avec Ronaldo Messi quand même.
Exactement.
Alors, est-ce que Coman n'est plus là parce que est-ce que Coman est toujours là parce que Xavi veut pas arriver tout de suite ou Parce que pour moi, Koeman, il doit dégager. Quoi.
Oui, le président doit dégager aussi, tout le monde doit dégager. Il faut faire un gros coup de ménage.
C'est ça, de toute façon. Après, de toute façon, Koeman, qu'est-ce qu'il peut faire de plus avec l'effectif qu'il a? Faut qu'il fasse progresser les jeunes.
Rendre l'argent qu'il doit.
De toute façon, là, actuellement, l'avenir du Barça, c'est pas Agüero, c'est pas Depay sur l'instant présent, sur les 2-3 prochaines années peut-être. Mais fondamentalement, l'avenir du Barça doit se refonder, doit se restructurer avec la Masia, avec les jeunes du centre de formation, avec des très jeunes joueurs comme Pedri, Gavi, on a Eric Garcia, Ansu Fati, tout ça doit être l'avenir du Barça dans 3-4 ans et revenu au premier plan. Parce que économiquement, ils peuvent plus faire de gros transferts, tout ça c'est fini, les Coutinho, les Dembélé à plus de 100 millions, les machins et tout, ça ne sert, ça, ils ne peuvent pas. Résultat, ils doivent se concentrer sur ça, sur la Masia et sur les jeunes joueurs, mais donc ça prendra forcément quelques années et je pense que le Barça en a encore un petit peu
Pour l'instant, ils sont obligés de mettre le petit bonhomme vert à qui ils doivent 1,5 milliard.
ils ont quand même une fourmilière importante et puis là, ils ont rentré de l'argent avec la vente de Messi. Donc je pense que
ils dégraissent de l'argent du moins avec le
salaire. Oui, ils perdent moins d'argent.
Ils étaient limite, donc là, je pense que
Ils sont inquiétants. Hein. Pour moi, le Barça risque de jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Ou peut-être rien.
Même rien du tout. Moi, je les vois
peut-être rien.
En Ligue Europa Conférence. Ça, il va jouer contre Nantes.
Ah, ça peut être sympa.
Nantes-Barça en Ligue Europa
Comme ça, on arriverait peut-être à aller voir.
Je crois qu'ils n'ont pas de représentants, les Espagnols, dans cette compétition.
C'est possible.
Non, ils ne doivent pas en avoir. Tu as raison.
Il y a un début
à vérifier. Par contre, du coup, l'autre match était pour l'Atlético qui a galéré contre la Real Sociedad à domicile et qui finit par faire un 2-2.
De partout, alors qu'ils perdaient 2-0, un doublé de Suarez pour venir égaliser. C'est pas étonnant parce que franchement, la Real Sociedad réalise un très bon début de saison. Ils sont premiers provisoirement avant l'Atlético a un match en moins. Donc finalement, c'est plutôt un match nul qui convient personne, mais qui est logique sur le papier.
Non, et surtout grâce à Suarez.
Grâce à Suarez. Suarez qui est parti librement du Barça.
Voilà, ça nous fait la liaison en fait.
Voilà, on se demande toujours pourquoi vu le niveau du Barça.
Allez, dernier match avant de fermer la page football qui nous intéressait. Grosse affiche dans le Calcio. L'Inter qui reçoit la Juve pour le partage des points partout.
Exactement, partout. Un but d'Edin Zeko à la 17e pour l'Inter
Milan. Dybala sur pénalty pour la réduction.
En toute fin de match qui égalise sur pénalty. Un match nul qui finalement n'arrange aucune des deux équipes qui sont un peu décrochées pour le titre. Pour l'instant, les deux équipes qui sont vraiment en tête, c'est le Naples et l'AC Milan qui sont au coude à coude. L'Inter qui n'arrive pas à concrétiser sur l'année dernière, comme des pertes, comme Hakimi, Lukaku et tout.
Ouais.
Et la Juventus qui perd Ronaldo. Et voilà. Donc, c'est un match nul qui arrange personne, mais c'est
redistribution des cartes cette saison en Serie A.
Surtout avec l'AC Milan, avec le retour de Zlatan Ibrahimovic qui rejouait ce week-end et qui a notamment marqué le premier but contre son camp de sa carrière.
Mais il en a marqué un après dans le bon sens.
Il en a marqué un après dans le bon sens. Donc
incroyable.
40 ans, toujours en top de sa forme et ça c'est beau.
Et il avait une petite fin, c'était contre Bologne.
On ferme la page football pour ouvrir celle du hand. Maëlan, c'est H-Time.
H-Time. Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview. H-Time. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de hand, on parle du H, de la semaine de nos violets qui avait commencé du côté de Rimiaki en Finlande pour affronter l'équipe de Cox. Et ça a été une belle entrée en matière pour nos Nantais qui s'imposent 40-28.
Un petit poil poussif parce que les Nantais étaient à 11 partout à la 17e. Et puis ils sont mis à réagir et accélérer le jeu pour s'imposer finalement, mais ça n'a pas été autant de facilité. Ils étaient encore un peu congelés du voyage.
Alberto Entrerios a pu faire tourner, on a vu notamment Milan Milic plutôt à son avantage, à 5/5. Le pivot Marchand aussi,
Marchand qui n'a pas été très bon en début de match, s'est amélioré par la suite. Portela aussi, qu'on a vu.
Ouais, les recrues qui sont au diapason sur cette rencontre. On n'attendait pas autre chose qu'une victoire de nos violets, mais il fallait quand même, après un long déplacement, lancer la saison en Ligue européenne et ça a été bien fait.
C'était important de gagner et de s'imposer quand même.
Ouais, on en attendait pas moins. Demain, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour son homologue allemand qui avait dû finir 4 ou 5e la saison passée. Donc, on va pouvoir échalonner les deux championnats et voir un petit peu si on
ne souffre
pas de la comparaison avec les Allemands.
De comparer, Lemgo qui a déjà gagné cette compétition, qui n'est pas... C'est pas un club qui vient d'apparaître, c'est un club qui a une certaine histoire en Europe.
Ouais, qu'on voyait pas sur le plus haut de la scène européenne, parce qu'il y avait
Rhein-Neckar, Magdebourg, Fürth Berlin.
Ils sont leaders, en Allemagne.
Oui.
Donc on va surveiller cette formation.
Ça va être un très très bon match demain à 20h45.
Ouais, en première division, enfin Liqui Moly Star League, c'était la venue de Nancy, le promu vendredi à la H Arena, et là encore pour un festival.
Après avoir été gagné 33-29 à Toulouse la semaine dernière, ce qui était déjà une bonne nouvelle, Nantes s'est imposé 37-28 Ça a été serré les 11 premières minutes, ils étaient à 5-5.
Après, sans opposition.
Après, ça s'est accéléré un petit peu, 19e, 20e, Toulouse et... Nancy, pardon, est revenu par moment, mais dès la mi-temps, on était à 20-13 et ça paraissait réglé. Non, t'as fait tourner gentiment.
Ah bah, la base arrière, hein, 13 à son avantage, avec Brié à 4 sur 6, hein, on avait Cavalcanti à 5 sur 7, Lazaroff 3 sur 4, puis les pivots en feu, hein, le pivot Marchand, hein, il était à 3 sur ce match-là, Pêche aussi, et puis... Monard, 5 sur 7, donc de bon augure avant d'affronter les Allemands demain à la H Arena. Hein. Tout le monde est en forme, tout le monde marque.
Et voilà, et puis vendredi, il y aura Saran.
Saran pour conclure la semaine
en voyage là-bas.
Des Nantais.
Et puis du coup, ça me permet de faire un petit point commun, parce que celui qui joue très très bien, qu'on avait un petit peu comme ça, mis de côté, c'est Mickaël Robin, qui fait très bien le job de remplacer... Émile Nielsen, oui, je t'écoute.
Et Mickaël Robin qui, du coup, dans le set de la semaine, cette semaine, donc Mickaël Robin qui arrive...
Ouais, 10 sur 29 hein, face voilà. À Nancy, donc toujours...
Et puis il était à 14 arrêts à Toulouse, enfin non, il est vraiment au top, surtout que bon, Hoffmann...
Il fait bien le taf.
Bon, Nielsen devrait revenir quand même bientôt, là...
Mais du coup, ça me permet de basculer sur les Neptunes, puisque celle qui fait le taf aussi, c'est Floriane André, la deuxième gardienne des Neptunes. Qui a un niveau d'arrêt aussi très intéressant. Donc, les Neptunes qui, après deux défaites d'affilée...
Fallait réagir,
il y a eu la petite pause. Et puis, mercredi, elles ont joué face à l'OGC Nice, qui était dernier. Victoire 22-21 pour les Nantais. Ça a encore été difficile. Nice qui menait 13-12 à la mi-temps. Ada Poichek avait un petit peu de mal, mais heureusement, Floriane André, 11 arrêts. A permis à Nantes de faire le job. A noter, Karine Stromberg à 5 sur 6 et Onasia Ondono à 4 sur 4. Prochain match pour les Nantaises, c'est samedi à Besançon.
Ah non, c'est pas Metz.
Samedi à Besançon et à noter sur votre agenda, mercredi 3 novembre à 20h, c'est la réception de Metz à Mangin.
Dans 8 jours, notez bien sur l'agenda hein, les championnes de France hein, qui se rendent, pardon, les vice-championnes de France qui se rendent donc à Mangin-Beaulieu. On a été complet sur le hand, on passe au sport méca, Mélan, c'est Nitro.
Alejandro, is there any damage? Is there any possible damage?
Nitro, c'est toute l'actualité de sport mécanique tous les lundis soirs à 19h dans Money Time.
Et c'était l'antépénultième manche du championnat du monde de MotoGP en Émilie-Romagne, hein, pas très loin de Rimini. Et on attendait ce Grand Prix puisque au cas où Franco Bagnaia ne marquait pas de points, Fabio Quartararo était champion du monde. Donc on va revenir d'abord sur ce Grand Prix hein, et dire que c'est la victoire pour Marc Marquez, doublé même pour Honda.
Oui, puisque Paul Espargaro, deuxième.
Et puis...
Il est né à Bastianini de Ducati, enfin...
La réserve du Cali.
La Vincia et tout, Ducati, là où il était...
Prend la dernière place sur le podium. Exactement. Fabio fait 4, mais Fabio... gagne le championnat, c'est incroyable.
Pourquoi Bastianini, explique-nous, Fabrice.
Alors, moi j'ai vu le Grand Prix. Et
nous aussi.
Ouais, quand Bagnaia il tombe, Quartararo, Miller est tombé déjà avant. D'ailleurs, c'est le même virage, je crois.
Oui.
Et il comprend qu'il est champion du monde, mais il ne réalise pas quoi.
Ah bah là...
Et là, il est troisième, il veut faire un podium, mais là.
Il le provoque
et tout.
Et là, il passe pas loin de tomber.
Ouais. Il lui dit bon, je vais lâcher le podium.
Voilà.
Je suis champion du monde quoi. Et je pense qu'il a eu tout à fait raison.
Ah,
très logique. Je sais pas soit c'est lui qui a décidé, soit ce sont les.
Oui, il s'est battu quand même dans le dernier tour.
Il s'est battu.
Bastianini voulait absolument cette place. Et c'est pour ça, il a essayé de repasser. Il s'est refait un petit peu brassé par Bastianini.
Limite.
Mais bon, heureusement, il a un moment dans sa tête, ça s'est dit.
Laisse le passer.
Faut j'ai juste à finir pour être champion du monde. Mais déjà, si tu regardes dès le départ, il part 15e sur la ligne, il se retrouve 17e.
17e dès le départ.
Et donc au départ, alors c'était marrant parce qu'il y avait un petit décompte de points. Oui. Plus que 27 points de retard pour Bagnaia. Et il a remonté, mais comme ça, c'était magnifique ce qu'il a fait.
Magnifique.
Avec Zarco sur sa selle. Et du coup, ils remontaient tous les deux comme ça. Zarco qui finira juste derrière la 5e place.
Exactement.
Et il a fait un grand prix intelligent parce qu'il a quand même passé Rhys, il a passé machin, il a passé.
Voilà, il a passé du monde.
La poisse pour Ducati quand même. Hein.
Oui, la poisse.
Dès le départ de les premiers tours, ils étaient Bagnaia en tête, Miller deuxième. Miller qui, du coup, sous la pression de Marc Marquez
et c'est Marquez qui a mis la pression.
Met la pression, le fait de tenir le rythme de Bagnaia, Miller.
Grosse boulette de Miller qui savait que son rôle était juste de protéger Bagnaia,
enfin, pas l'attaquer. Bon équipier, on va dire ça comme
et
ça.
Et il fait bien son rôle de bon équipier, puis à un moment, il rate son virage, et on le voit à la fin, quand il est tombé, il se dit, mais comment j'ai pu faire une telle faute, quoi.
Et c'est pour ça que, quand tu écoutes les commentaires, tu te dis, mais l'année prochaine, ça va être chaud. Hein.
Entre Bagnaia,
Marquez, qui est revenu en pleine forme, qui a gagné 2 Grands Prix d'affilée, et Quartararo,
Fabio Quartararo,
il va y avoir de l'ambiance,
il va y avoir du sport.
Et on attend aussi les Rémi Gardner et Raúl Fernandez qui montent chez
Rhys,
qui montent et tout, Alain Prost admire et tout. Enfin, va y avoir une forte densité l'année prochaine et tout en termes de pilotes et de motos.
Déjà depuis 2-3 ans entre les KTM qui montaient avec Oliveira et tout ça il y a quand même je dirais presque une quinzaine de pilotes capables de gagner une course.
Bon, on a un Français champion du monde.
Exactement.
Depuis le temps. Depuis 1950-49.
Mais depuis jamais, en catégorie reine.
Oui, depuis 49, puisque ça existe depuis 49.
Christian Sarron.
Oui, mais c'est du 250, comme Olivier Jacques.
On a arrêté la fameuse fulgurante hispano-espagnole qui gagne tout depuis
Italo-espagnol,
Lorenzo, Marquez, Mir.
Et c'est là qu'il faut se dire aussi, c'est que Quartararo, il a couru où ? En Espagne.
Exactement.
Il a fait ses écoles en Espagne.
Exactement.
Il est champion de Moto 3 à 15 ans, mais en Espagne, dans les championnats espagnols. Quand la Dorna, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est la fédération espagnol
de
motocyclisme, qui lui donne sa licence de professionnel à 16 ans, avec une dérogation.
Ouais, très précoce.
Et c'est pour ça qu'il est champion du monde à 22 ans, c'est le plus jeune.
Alors, 15 mois après avoir gagné son Grand Prix, son premier Grand Prix à Rez, il est champion du monde.
Progression fulgurante.
Deux, trois petites entre guillemets, statistiques. Comme ça, c'est le plus jeune champion du monde MotoGP chez Yamaha. C'était Lorenzo qui avait 23 ans, lui, et tout. Lui, il l'a fait à 22 ans. Donc, ça fait 6 ans que Yamaha attendait d'avoir un nouveau champion du monde, un titre. Et bien, ils l'ont fait avec Fabio Quartararo. C'est quand même assez impressionnant, déjà du fait qu'on voit les autres Yamaha surtout. Parce que quand on voit les performances des Ducati qui sont exceptionnelles et tout, et quand on voit. Qui est juste finalement, il n'y a que Quartararo.
Morbidelli,
Rossi.
Surtout qu'il est tellement dans les choux qu'il est chez Aprilia maintenant.
Vignales qui est parti à n'importe où.
Mais non, pour en revenir, du coup, puisque c'est Morbidelli qui a remplacé, mais il est beaucoup plus loin, Morbidelli.
Mais ça montre quand même le niveau du mec quand même. Hein. Si tu le mets chez Ducati et tout, alors enfin. Avec une puissance d'une moto de la Ducati, mais il explose tout le monde, il fait une Marquez comme il y a 5-6 ans, enfin et tout.
C'est ce qui sera à voir, c'est dans les années à venir, est-ce qu'il ira chez Honda, est-ce qu'il ira chez Ducati ?
Quartararo ?
Ouais.
C'est pas impossible.
Ouais, c'est pas impossible, parce que si la Yamaha ne progresse pas et tout,
exactement.
Alors qu'on voit comment il est largement supérieur par rapport aux autres, ça va être, va falloir qu'Yamaha se bouge un peu les fesses pour lui donner une moto très très performante.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est le dialogue de Zarco qui est venu le premier le féliciter.
Ah bah oui.
Et après t'as eu Rossi. Nicolas. Et après t'as eu Marquez.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça génial parce que les mecs sont venus le féliciter tout de suite en disant bravo, t'es un champion.
C'est incroyable.
Et on souhaite à Zarco de gagner un des derniers Grands Prix.
Il en reste deux.
Algarve, ça serait beau. J'aime bien le Grand Prix de Portimao là.
Ou Valence. On verra bien.
Il en reste deux, c'est ça.
Algarve et Valence.
Bon.
Donc le circuit d'Europe de Valence. On verra bien.
Alors, On a fini pour la moto, je crois que c'est
Cocorico pour Fabio. Exactement. Mais il reste, la saison n'est pas finie, il peut encore en claquer.
Exactement.
Deux, trois résultats, juste de Moto 2, la victoire de Sam Lowes devant Augusto Fernandez, son coéquipier, mais c'est surtout la chute de Raúl Fernandez qui se bat avec son coéquipier Rémi Gardner, qui donc tous les deux vont monter en MotoGP l'année prochaine.
Ça va être sympa.
Pour le titre, ça va être très sympa. Et en Moto 3, c'est Denis Foggia qui emporte la course devant les Maussia et Acosta de KTM qui sont coéquipiers. Pedro Acosta, qui était largement en tête au championnat du monde Moto 3, voit Denis Foggia fondre sur lui. Il n'a plus que 21 points d'avance. Ça peut aller très vite, surtout sur les deux dernières courses.
Voilà. Et du coup, alors pour les champions du monde, je vais passer par le WRC pour vous dire que dans 15 jours à Monza, on saura si Sébastien Ogier enlève sa 8e couronne de champion du monde devant son coéquipier Elfyn Evans.
On y croit.
Et du coup, je vous passe la main pour le Grand Prix des États-Unis.
Grand Prix des Amériques à Austin.
Exactement,
le Grand Prix d'Austin qui était à suivre à 21h heure française, un heure très cocasse. Mais
y compris en clair d'ailleurs.
Y compris en clair, exactement.
En même temps que le Classico, c'était un peu pénible parce qu'il fallait deux écrans pour les Classico.
Ouais, où tu regardais le Grand Prix, mais enfin au bout d'un moment, tu t'endormais, tu ne savais pas lequel allait t'endormir le plus vite.
C'est pas faux. Ça suivre le rugby, c'est ça Jean-Marc.
Exactement.
Et la victoire de Max Verstappen. Verstappen qui remporte la course et tout en suivant des bonnes stratégies. Verstappen qui fait pourtant un mauvais départ. Il voit Hamilton qui était parti en deuxième position le prendre la première place, la première place en tête du Grand Prix dès le premier le virage. Mais au jeu des arrêts au stand et des stratégies, Verstappen a été arrêté à chaque fois.
Exactement.
Des belles undercuts avec des beaux pneus blancs durs et doux.
Une petite histoire de pneus quand même pneumatique.
Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est l'histoire de pneumatique.
Un choix pneumatique un peu délicat et.
De toute façon, les circuits comme Austin et tout, ces circuits où en course c'est très difficile de dépasser et tout, ça se joue. Les dépassements se font forcément aux arrêts au stand. Là, ça en a l'avantage, c'est que c'est un circuit qui demande deux arrêts au stand, ce qui permet de forcément d'avoir des stratégies beaucoup plus différentes que si c'était qu'un arrêt, qui permet de finalement d'avoir beaucoup plus de dépassements, on va dire sur les arrêts au stand. Donc finalement, Verstappen s'est arrêté assez lent, assez tôt. Et du coup, l'undercut qui joue énormément lors de ce type de course. Hamilton, du coup, est ressorti lors de son deuxième arrêt-stand assez loin, à 7-8 secondes. Et il n'a pas pu jamais rattraper Verstappen, sachant que c'est très difficile de dépasser.
Et pourtant, sur son changement, il pensait faire un bon coup stratégique.
Bah oui, c'est ça.
Il avait dit, parce qu'ils ont fait...
Il avait un meilleur rythme en soi.
Voilà, ils avaient fait rentrer...
Bottas
avant, ouais. Pour justement que ça libère un peu la piste. Et Bottas devait vraiment prendre Verstappen derrière, et ça s'est pas fait quoi. Verstappen il a tenu le coup
où Mercedes a été plus embêté, c'est que Sergio Perez a réalisé un très bon Grand Prix, il finit P3 sur le podium, mais il a embêté Hamilton sur les stratégies, parce que sur le premier relais, Hamilton disait que ça allait très bien et tout, que lui il voulait continuer, mais Perez s'arrête. Undercut, forcément, il va gagner des secondes vu qu'il s'arrête. Hamilton est donc forcément obligé de s'arrêter s'il ne veut pas ressortir derrière Perez, qui aurait du coup gêné Hamilton. Et ça a joué. Et c'est là où on demande finalement, c'est le boulot que doit faire Perez, que fait Bottas avec Hamilton chez Mercedes, que ce n'était pouvait pas être fait chez Red Bull depuis 2-3 ans et tout, avec Gasly, Albon. Et là, Perez y arrive un petit peu, alors sur intermittent, s'il n'y arrive pas tout le temps. Et c'est ce qui fait du bien du coup à Verstappen et qui peut jouer pour le titre.
Surtout du coup que Bottas avait pris quelques places de pénalité. Du coup, il ne pouvait absolument pas aider Hamilton pour ses undercuts. Au final, victoire de Verstappen devant Hamilton, 3e Perez. 4e, Charles Leclerc.
Qui a réalisé un très bon Grand Prix, il a été stable, il a fait ce qu'il fallait, c'était difficile d'aller chercher plus, derrière.
Et pour les autres Français, c'est l'abandon.
L'abandon, les deux voitures, les deux Alpines et les deux Français.
Exactement.
Et là où je te rejoins, Charles, tout à l'heure, quand tu dis Perez, la course qu'il a fait, c'est un peu la course qu'avait fait Alonso
pour
la victoire d'Ocon.
Pour la victoire, exactement, qui gêne énormément
Hamilton, il a fait une course impressionnante parce que.
Une course de coéquipier.
Ça avait eu 7-8 tours.
Ah oui,
il n'a pas bougé. Exactement. Il a même failli le sortir à un moment.
Exact.
Sur un virage, il a failli le sortir carrément en disant moi aussi je suis champion du monde et tu ne vas pas me faire chier.
Et surtout quand on voyait à ce moment-là que finalement dans les deux derniers tours, Hamilton revenait comme une balle sur Ocon, Alonso avait fait du très bon travail.
Allez, il reste un quart d'heure, on ferme la page des sports méca. Maëlan, on va ouvrir celle des résultats de nos clubs nantais. C'est Score en Stock.
Money Time. Score en stock. Résultats, analyses, classements et agenda des clubs nantais. Score en stock.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence peut-être avec du hockey.
Exactement, du hockey sur glace avec, pour la troisième fois en 8 jours, les Corsaires qui vont jouer leur match au tir au but. Et ben comme contre Caen où ils avaient fait ils avaient fait égalité et perdu au tir au but, ben là Nantes à Brest qui va être mené 2-1 dans le deuxième tiers-temps, reviendra en fin de tiers-temps la 44e grâce à Théo Lanvert, et le premier but étant marqué par Max, pardon. Et là, malheureusement, Nantes va le perdre. Au classement, c'est pas trop grave, puisque Nantes est 7e avec 5 points, puisqu'ils prennent des points à chaque fois, si tu veux. Samedi prochain, c'est le match d'Halloween, donc ça sera très sympa au Petit Port à 18h. Mais on va revenir sur ce qui passait en milieu de semaine, puisque Nantes recevait l'Ormadi, équipe de Magnus d'Anglette. Et après un énorme match où on verra Nantes qui sera mené 2-0, revenir puis passer devant grâce à... Oui, voilà, si, c'est ça, je les ai marqués là. Grâce à Crowder à la 11e, à Lanvert à la 18e et Rodriguez à la 30e vont passer devant. Malheureusement, ils seront rejoints à la 44e. Là, à ce moment-là, overtime, prolongation de 5 minutes. Et derrière, les tirs au but, Jonas, le gardien nantais, Jonas Harald va arrêter 8 tirs. Et le gardien, Florian Hardy, pardon, l'ancien gardien de l'équipe de France, en arrêtera 7, puisque c'est Matthew Brenton qui donnera la victoire et la qualification en 8e de finale pour Nantes. Et on écoute Cédric Custos, le capitaine.
Avec Cédric Custos, après cette belle victoire et qualification des Corsaires face à Anglette... Quel match ?
Quel match, ouais. Match de Coupe de France où les deux équipes voilà, jouent leur chance pour survivre dans cette compétition. Donc, on a dû aller jusqu'à la séance de tir au but. On sait que ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Mais globalement, dans le contenu, on a présenté un très beau match et ça, on doit s'en satisfaire et s'en servir pour la suite.
Justement, belle prolongation, ça passe pas loin avec un tir de Bergeron sur l'arrête. Derrière, une séance de tir au but infernale où les gardiens ont été énormes. Et puis Matthew Brenton qui conclut le match et c'est mérité pour lui, je pense.
Ouais, bien sûr, c'est mérité parce que c'est un buteur, il aime se projeter sur la cage adverse, il patine très vite et des occasions il en a sans pouvoir conclure. Là, ça lui a réussi, ça permet de passer le tour, mais... Il y a d'autres joueurs qui sont sortis du lot, Jonas entre autres, Fred Bergeron aussi, et bien d'autres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'était vraiment une performance collective, on est resté soudés. Donc ça, voilà, il faut que ça serve, comme je le dis, dès de samedi. Voilà, on a cette chance de pouvoir enchaîner un peu les matchs, ça fait du bien, ça permet de rester concentré. Et donc, j'espère qu'on sera capable de se servir de ce match-là pour réitérer notre performance.
Alors, autre équipe qui jouait de la Coupe de France mardi, c'était l'Hermine de Nantes qui recevait le mythique CSP Limoges en basket, le seul vainqueur d'une Coupe d'Europe.
Pensionnaire de proie, champion d'Europe 93.
Exactement. Les Nantais qui font un bon premier quart, qui ne perdent que de 5 points, 26-21. Ils vont complètement rater le deuxième et le troisième quart-temps avant, pour l'honneur, de remporter le quatrième quart-temps 16-15. Bon, c'est honnête, une défaite 84-61. Bon, du coup, Nantes n'est plus dans les coupes, l'Hermine n'est plus dans les coupes, mais par contre, en championnat, ils ont attaqué le championnat avec une victoire contre Denain-Voltaire, 91-60. C'était la semaine dernière. Et cette semaine, ce week-end, ils ont été dans la Drôme, où ils l'ont emporté 69-62.
Face à Romans, j'imagine.
Hein ? Non, à Saint-Vallier, pardon. Ah. Saint-Vallier, au nord de la Drôme. Pareil, ils ont eu un peu de mal, ils gagnent le premier... Le premier quart, 22-11, ils vont complètement rater les deuxièmes et troisièmes. Ils vont gagner 18-8 dans le dernier. Donc, au classement, ils sont en tête. Et le prochain match, c'est vendredi. On va essayer d'y aller. Ça sera contre l'Élan Chalon-sur-Saône, ancienne équipe de Pro A. Alors, je reste sur le basket pour vous donner un petit mot des déferlantes. Ça va mieux. Elles l'ont emporté 67-56 face à Cherbourg. Et puis, je passe au dernier sport dont on n'a pas parlé, le volley.
Le VBN.
Le VBN, si je retrouve mes fiches, le VBN qui jouera mercredi. Alors, le VBN avait gagné la semaine dernière 3-0 à Chamalières. Et puis là, elle jouait contre Marc-en-Barœul, qui est une équipe qui joue plutôt bien cette année. Elle rate les deux premiers sets, nos volleyeuses nantaises. Elles perdent 25-22 et 25-23, mais elles ont bien réagi en emportant les trois suivants, 25-22, 25-21 et 15-12. Et le prochain match, c'est mercredi, j'irai avec une petite surprise, c'est la réception du RC Cannes à Mangin à 20h. Et pour les garçons, excusez-moi, je reprends mon souffle. Les boys, donc, après une défaite la semaine dernière 3-2 à Paris, l'ont emporté à Poitiers 3-7-1, 25-22 le premier set perdu, et puis 25-14, 26-24 et 25-22 pour les trois suivants pour les hommes du Béréno, qui vont recevoir l'AS Cannes, c'est mardi également, c'est mardi donc demain soir, à Duga, allez-y. Ça sera ouais, sympa.
Cannes pour les hommes et pour les femmes.
Exactement. Cannes qui est le champion d'ailleurs.
Ouais. Allez Maëlan, dernière rubrique pour nous avant de rendre l'antenne, c'est Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer avec du ski alpin, le retour du cirque blanc, les épreuves de pré-coupe du monde sur le glacier de Solden. Chez les femmes, pas de changement. Michaela Schifrin, toujours en haut de l'affiche, hein, devant Lara Gut et Petra Vlova, les trois meilleures skieuses de la saison dernière. Chez les garçons, on attendait beaucoup des Français, hein, bien sûr Mathieu Febvre et Alexis Pinturo, mais malheureusement c'est Marco Odermatt, hein, le dauphin d'Alexis Pinturo au général du Globe de Cristal, qui s'impose devant Félix Leitinger et le Slovène Vranjek. Voilà pour la page ski alpin des nouvelles du rugby.
Exactement, c'était encore une nouvelle journée de top 14 avant les réunions de sélection nationale.
Les tests d'automne.
Les tests automnales. Avec première info, c'est Antoine Dupont qui sera capitaine de la sélection en l'absence de Charles Olivon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt mérité pour lui, hein, qui est maintenant devenu un joueur incontournable dans le monde du rugby. Les résultats, on a Toulouse qui se reprend bien après la défaite face au Loup la semaine dernière. Une victoire 41-0 face à Castres. Ils remettent les pendules à l'heure avec un très très bon Thomas Ramos, notamment, et Juan José Malia, l'Argentin. Donc une victoire nette et sans bavure qui les positionne toujours en tête du top 14 devant Bordeaux. Bordeaux qui continue son petit bonhomme de chemin derrière Toulouse avec une victoire face à Perpignan 39-13. Clermont qui se reprend bien.
Ouais, il était temps.
Exactement. Victoire 49-20, eux qui étaient un peu mal partis en ce début top 14. Ils reviennent bien. Ils sont actuellement 7e.
C'est Toulon qui continue de
dégringoler.
Toulon rade. Hein.
Exactement. Toulon qui ne trouve pas la solution. Ils sont inondés sous les eaux. 39-6. Inondés par les Maritimes, hein, de La Rochelle.
C'est ça. Ils ont vraiment pris l'eau, ouais, et pas que l'eau de la pluie.
Ils ont été pris à l'abordage, complètement secoués. 39-6.
Ça sent pas bon pour les Varois, le RCT. Hein, exactement. Ils vont avoir une saison compliquée.
Ils sont 13e actuellement, juste devant Perpignan. Ça va être compliqué cette année encore pour Toulon, malgré Chelsea Colby qui devrait bientôt revenir sur le terrain.
Mais t'imagines tous les matchs qu'il aura ratés,
Colby. C'est quand même
ça. Ça, c'est un petit peu gênant. À noter, Perpignan, tu parlais de Perpignan qui a pris 39-13 à Bordeaux. Et puis Biarritz qui bat Brive 37-9. Alors, moi, je vais juste vous parler. Alors, Vite fait, Van a fait match nul à Carcassonne.
Ouais, rien, c'est pas bon
c'est
pour Van.
Ah, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. C'est à l'extérieur. Ils avaient battu.
Mais là, ils sont loin.
Agen. Ils vont pas gagner, mais ils devraient se sauver.
Et l'équipe puis, qui a joué les playoffs, hein, il faut s'en rappeler.
Agen. C'est vrai, hein, RCV, là, ils étaient.
Ah, ils sont au top. Pas bien, là.
Un peu la tête à la rabine.
Ils étaient proches du top 14, hein, quasiment.
C'est ceux qui les ont battus, Biarritz, qui sont au top 14.
Ouais.
Pour vous dire qu'Agen a enfin gagné, ont battu Aurillac après 34 matchs sans victoire.
34 matchs sans
victoire. Et du coup, je vous parlais du stade Nantais tout à l'heure pour vous dire qu'ils ont battu l'Heureux 43-16, c'était samedi au stade
l'Heureux
Pascal Laporte.
L'Heureux à
côté Exactement. Ouais, et que le prochain match aura lieu à Courbevoie le 7 novembre.
L'Heureux qui était un peu embêtant.
Et je rappelle que Nantes est leader ex aequo avec le Havre Athletic Club.
Ouais. Moi, un petit mot de tennis. C'était le tournoi de Moscou avec la victoire du local, Aslan Karatsev, le russe tête d'essai numéro 2, qui est Marin Cilicic 2-6-4 en finale. Du côté d'Anvers, c'était Yannick Sinner, l'Italien, qui bat la tête d'essai numéro 1, qui bat la tête d'essai numéro 2, Diego Schwartzmann 6-2-6-2. Et à Moscou, chez les femmes, qui était un ATP de WTA 500, donc plutôt un bon tournoi, c'est Anett Kontaveit, l'Estonienne, qui bat Alexandrova 4-6-6-4-7-5. Du côté du classement ATP, Roger Federer recule encore et passe 15e. La montée notamment c'est de Casper Ruud, le Norvégien qui gagne 2 places et monte 8e, donc le jeune Norvégien de 22 ans, donc c'est une belle progression pour lui. Dominic Thiem qui recule d'une place. Et du côté de la WTA, c'est Anett Kontaveit qui du coup gagne 5 places et se replace 14e.
Très bien. Sur le PGA Tour, c'était le Zozo Championship à Shiba, dans la banlieue de Tokyo. Victoire pour le local Hideki Matsuyama, qui s'impose 5 coups devant Cameron Tringale. 7e victoire pour le japonais sur le circuit américain.
Et dans la diagonale des fous, c'est une égalité entre l'Italien Jung et Cédric Pommeray, qui mettent 23h02 pour traverser la Réunion. Et j'en profite pour saluer tous les participants du trail urbain de Chantenay, où il faut monter les fameux escaliers. Et c'était dimanche.
Charles, le mot de la fin.
Exactement, je voulais parler un petit peu de Vendée Globe, parce que le Vendée Globe a annoncé qu'il y aurait 40 participants maximum l'année prochaine, sachant qu'à mon avis, ils vont devoir faire des sélections, parce qu'il y a plus de 40 qui vont participer.
Si tu as regardé, Hugo Boss, Alex Thompson,
j'allais l'annoncer, effectivement,
ne participera pas et il se met en retrait pour cette édition.
Exactement, pour rester avec sa famille. Mais évidemment, on aura toujours normalement Jérémy Bayou, Clarisse Kramer, qui devrait cette fois avoir un bateau à foil.
Oui, mais c'est confirmé pour Clarisse Kramer,
Exactement.
Qu'elle sera bien là.
Elle sera bien là, donc on aura encore un beau Vendée Globe en 2024.
Allez, il est 20h, on laisse la place à Passage en Force. Bonne soirée, à lundi prochain.
Salut à tous.
Bonne soirée.